Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Ça commence par nous, qu'est-ce que c'est ? C'est l'émission qui vous aide à changer le monde tous les jours. Et oui, ici, on vous propose des actions simples et concrètes, quelles que soient vos compétences, vos moyens et vos disponibilités. La promesse de cette émission Ça commence par nous, c'est qu'à la fin, après avoir écouté tous nos invités pendant une heure, vous aurez tout un tas de solutions à mettre en place tout de suite et sans contrainte pour que votre quotidien soit plus éco-responsable. Et aujourd'hui, on va vous aider à réduire la taille de votre poubelle en redonnant une seconde vie à des objets qui ont encore de la valeur et que vous étiez sur le point de jeter. Malheureux, la fameuse poubelle des ordures ménagères, hein. D'autant qu'on est loin d'être les spécialistes des poubelles poids-plumes en France, hein. Pour vous donner un petit exemple, un Parisien produit plus de 500 kilos de déchets par an et seulement 14% de nos déchets sont recyclés. Rien que de le dire, ça m'écorche la voix malheureusement, hein. Moi, quand je pense que San Francisco recycle d'ores et déjà près de 90% de ses déchets grâce à un plan zéro waste ambitieux, je me dis qu'on est encore loin du compte. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, hein ? Et si, en fait, le problème, ça n'est pas du fait qu'on passe un peu trop vite par la case déchets ? Et si on pouvait aussi remettre dans le circuit des objets qui sont sur le point, de rejoindre nos ordures ménagères ? Bah, c'est justement ce que nous allons discuter pendant cette heure d'émission avec nos invités, qui sont tous porteurs de projets innovants dans le domaine. On aura avec nous Jean-François Réco, qui nous parlera de biocycle. On aura Emmanuel Bardin, qui nous présentera Lemon Tree, et enfin Sarah Régis Lidi qui nous fera découvrir ses recycles livres. Sur le plateau avec moi, hein, vous êtes habitués, il y a bien sûr Hélène Dédény, la spécialiste du zéro déchet, et Anne-Sophie de One Art qui nous partagera tout à l'heure sur mon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle heure d'émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et aujourd'hui, on vous parle de comment redonner une seconde vie à ces futurs déchets. Hein, et on accueille tout de suite Jean-François qui a fondé Biocycle. Salut Jean-François.
Salut Julien.
Comment ça va ?
Très très bien.
En pleine forme. Du coup, vous évitez que la nourriture, elle aille à la poubelle. C'est aussi simple que ça.
Tout à fait. En fait, c'est de donner tout son sens à la part de l'alimentation. Donc, c'est révéler la beauté en fait des produits avant qu'ils finissent à la poubelle, lorsqu'ils sont invendus, et de pouvoir en faire bénéficier des personnes qui sont dans le besoin, et tout ça à l'échelle du quartier.
Biocycle, il y a bio, il y a cycle aussi.
Tout à fait. Bio, c'est le phénomène de la vie, tout simplement. Donc, c'est révéler la part belle, en effet, de ce qui est invendu et ce qui finirait en déchets. Et cycle, c'est le cycle naturel de la vie. Et c'est aussi rattaché au vélo, parce qu'en fait, on fonctionne essentiellement en vélo triporteur, en cœur de ville, sur les collectes auprès des commerçants donateurs.
Concrètement, comment ça marche ? Est-ce que tu peux nous décrypter un peu une campagne, une collecte classique ?
Avec grand plaisir. En fait, on définit avec les commerçants donateurs une convention de partenariat qui est mise en place en fait depuis la loi contre le gaspillage alimentaire. Pour la petite particularité, Biocycle est intervenu bien avant en fait la loi. On va collecter auprès de ces commerçants donateurs. Ça va de la grande distribution au marché parisien, à la restauration collective. Ils mettent de côté les produits encore consommables sur différentes natures. Ça peut être des fruits, des légumes, des produits frais, fromage, yaourt, etc. Ça peut être aussi des produits secs. Ça va des pâtes, du riz aux biscuits en date de consommation longue. Et en fait, on les collecte et sur un circuit court, en moyenne 1,5 km, 3 km, on les redistribue à des associations caritatives ou de solidarité identifiées qui, elles, ont des besoins par rapport à la demande de l'aide alimentaire de personnes en difficulté.
Donc, il y avait de la nourriture qui était sur le point d'être jetée. Et juste à côté, il y avait justement des gens qui avaient besoin de cette nourriture, en fait.
Tout à fait, Julien. En fait, c'est exactement le sens de ce pourquoi Biocycle existe. C'est de s'indigner et de se révolter face, en fait, à quelque chose qui est, ma foi, banal, mais sur lequel on a tout à fait prise avec une démarche, en fait, citoyenne, totalement local, qui grandit, se mue en collectif, devient association. Et aujourd'hui, c'est vrai, porte en fait une dynamique très marquée entrepreneuriat social, de pouvoir faire le lien entre le trop et le pas assez, tout ça à vélo et à l'échelle locale.
D'autant que le gaspillage alimentaire, c'est un véritable fléau, hein.
Bah, c'est une conséquence assez dramatique. C'est vrai que si on rapportait ça, par exemple, à un pollueur, ce serait le troisième pays, en fait, derrière les États-Unis et la Chine en termes de gaz à effet de serre émis. Donc, c'est juste considérable. Et en termes de ressources en eau aussi, c'est des quantités de litres, en fait, juste incroyables.
Ouais, donc message à toutes les personnes qui disent qu'il faut toujours plus de produits chimiques pour produire suffisamment de nourriture pour nourrir tous les êtres humains qu'on aura en 2050, 2100. Et si finalement la solution, c'était pas aussi d'optimiser un peu tous ces circuits et de mieux redistribuer.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a tout simplement un enjeu de se poser la question, se questionner sur l'empreinte qu'est la nôtre au quotidien, pas avec une logique forcément très moralisatrice ou, comment dire, d'éléments critiques vis-à-vis de soi, mais de voir comment on peut être plus efficient par rapport à notre énergie, notre capacité à se mouvoir, consommer, se déplacer, agir. Et on a un formidable champ des possibles devant nous si on veut le voir ainsi.
Pour les gens qui n'ont pas vu passer les fameux triporteurs biocycles avec les gens en tenue orange qui pédalent dessus, en chiffres concrètement, biocycles, ça donne quoi pour l'année dernière par exemple?
Alors, je dirais aujourd'hui, en fait, pour apporter ça peut-être à du local et aussi à du quotidien, en moyenne, biocycles, c'est à peu près une demi-tonne collectée chaque semaine sur la base de commerçants donateurs qui vont d'une dizaine, une quinzaine en fait courant. On est sur une phase de développement et de logique aussi de duplication d'échelle sur d'autres cœurs de ville qui ont les mêmes problèmes. En pendant, en personnes qui vont pouvoir bénéficier de nos relais, du relais du don alimentaire, c'est 300 personnes. Donc, ils sont des sans-domicile fixe, des familles monoparentales, des retraités, des étudiants en précarité. On a une équipe constituée aujourd'hui de 6 à 7 permanents. Et on a, c'est vrai, de vrais défis parce qu'on a une activité qui ne cesse de grandir et qui est assez conséquente. Et on a une tâche ardue qui est celle aussi de évoluer et grandir sur un modèle hybride qui n'est pas uniquement détenu par la subvention publique. Donc on est véritablement quelque chose d'un peu nouveau entre l'association et l'entreprise et qui veut, c'est vrai, venir répondre de plus en plus aux enjeux de développement durable.
Ouais, c'est important de le redire, hein. Vous faites quand même d'une pierre beaucoup de coups, hein. Il y a quand même toute cette question de se déplacer à vélo, de réduire au maximum vos émissions de gaz à effet de serre, de réduire le gâchis alimentaire, de revaloriser aussi la démarche, de même si maintenant c'est légalement obligatoire, de ces gens qui font l'effort de vous mettre à disposition les invendus alimentaires, et puis derrière, de solidarité. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est, comme tu le disais, c'est pour l'instant assez réduit. Demain, biocycle dans toutes les villes de France?
Dans toutes les villes de France, je ne sais pas. En tout cas, c'est toute l'ambition qu'on peut essayer de cultiver pour soi. Je ne sais pas si c'est une finalité. Moi, ce que j'aimerais, tout simplement, c'est que je pense qu'on est à la croisée des chemins sur beaucoup de sujets. Et c'est un formidable révélateur de pouvoir s'imaginer encore sur Terre avant d'aller sur Mars et de répondre à énormément d'opportunités, de solutions, en fait, locales. Biocycle a la vocation d'être un outil, un cluster local, citoyen, qui peut être un moyen d'incapacitation, d'empowerment, comme disent les Anglais. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, que ce soit à l'échelle de quartier, d'arrondissement parisien, déjà, en fait, à l'échelle de ville, maintenant, et de collectivité en Île-de-France, je serais, c'est vrai, très heureux avec l'équipe, parce que je travaille avec une très, très belle équipe, et j'en suis très, très honoré, orgueilleux, de pouvoir faire en sorte que ça devienne viral et que biocycle, c'est vrai, serve beaucoup d'autres sujets anti-gaspi sur la place en France.
Dernière question pour toi, Jean-François. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Waouh, mais attends, c'est génial !» Qu'est-ce qu'ils font, eux, concrètement, pour t'aider? Ils peuvent t'aider?
Absolument, sachant que on a cet effet de développement aujourd'hui sur trois tempos forts. Le premier, c'est le relais du don, ce qu'on a mentionné depuis maintenant notre début d'échange. Il y a ensuite l'animation vélo mixeur qui est venue en complément en fait des vélos triporteurs qui sont, c'est vrai, certainement virales en fait dans la ville, mais on s'est demandé comment on pouvait impacter un petit peu plus le citoyen en fait à l'échelle locale. Donc les vélos mixeurs, c'est simple, c'est des vélos de récup qu'on remet en état et typiquement vous montez dessus, vous pédalez, vous mixez des fruits et des légumes moches en smoothie ou en soupe fraîcheur. Et c'est des applications aussi qu'on développe auprès de l'entreprise et des collectivités. À date, depuis juin 2016, c'est 11 000 personnes sensibilisées en Île-de-France. À côté de ça, pour continuer une démarche d'alchimie autant que faire se peut, on a commencé depuis maintenant très peu de temps à produire avec Foot de rue dans un projet de halle alimentaire dans le 14e, via, c'est vrai, son magnifique chantier d'insertion, des soupes, jus, compotes, confitures artisanales produite locale en circuit court sur la base du gaspillage. Et donc ça, c'est en train de sortir de terre également et c'est une nouvelle manière de consommer, engagée. Je sais que très récemment, tu recevais Nicolas Chaban, que je ne connais pas, mais que j'apprécie énormément en tout cas pour ce qu'il représente et ce qu'il défend. Et pour dire, tout le monde peut s'impliquer auprès de Biocycle en schéma bénévole, en super bénévole, aussi en démarche de stage, parce qu'on a des stages actuellement qu'on ouvre, des missions de volontariat en service civique également, et j'espère pouvoir créer en fait de nouveaux postes sur la base en fait de l'année 2018. Ça ne tient qu'à nous.
Et génial, génial Jean-François, quelle magnifique énergie, quel très beau projet, je suis hyper content de pouvoir vous mettre à l'honneur dans cette émission Ça commence par nous. Voilà, hein, l'émission, ça y est, elle vient de débuter sur les chapeaux de roue. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Pour ceux quand même qui ont été interpellés hein, par ce que tu disais, il y a un site internet.
Tout à fait, site internet et également réseaux sociaux. Alors c'est biocycle.fr et vous nous retrouvez très facilement en fait sur Facebook, Twitter, Instagram et également LinkedIn.
Vous êtes de partout. Nous on rediffuse aussi ça sur notre groupe Facebook de Ça commence par nous. Allez, tout de suite une petite pause musicale.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. Et c'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Aujourd'hui, on vous explique comment éviter de passer par la case poubelle pour certains de vos déchets.
Ça commence par nous.
Et tout de suite, nous sommes avec Emmanuel Bardin de Lemon Tree. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Lemon Tree, on reste un peu dans l'idée que nos déchets, ils valent mieux que de terminer dans les ordures ménagères, non ?
Tout à fait, ouais. L'idée, c'était de redonner une valeur à certains déchets, donc notamment les emballages boissons, canettes, bouteilles, pour rétribuer une valeur symbolique et récompenser les utilisateurs de nos services, de nos machines, en réattribuant une valeur à ces déchets, en donnant un point, en laissant la possibilité de faire un don à une association, faire prendre conscience aux gens que voilà, il ne faut pas le jeter n'importe où, il ne faut pas le mettre dans la poubelle d'ordures ménagères. C'était un peu le principe de base de notre entreprise, de pouvoir réattribuer cette valeur aux déchets.
Concrètement, on parle de quoi ?
Concrètement, on installe des machines de recyclage dans tous les lieux en dehors du domicile. Donc ça va être votre lieu de travail, le campus universitaire, le cinéma, où vous êtes amené à consommer ces boissons de manière nomade.
Le supermarché.
Le supermarché, exactement. Ouais. Et nos machines vont venir trier automatiquement les emballages de boissons, les accepter, les compacter et récompenser l'utilisateur. Donc là, il y a pas mal de systèmes variés en fonction du lieu. Vous allez pouvoir obtenir un bon d'achat, vous allez pouvoir faire un don à une association, vous allez pouvoir créditer des points sur un compte, sur une carte de fidélité. Le principe est toujours le même, c'est comment motiver les personnes à faire l'effort d'aller vers nos machines pour recycler leurs emballages.
D'autant que dans le domaine, il y a du boulot. Hein. Ce qu'on se disait au début, c'est qu'il y a un Français sur deux qui trie vraiment actuellement en France. Donc, il faut réussir à faire rentrer ça dans les habitudes.
Oui, et puis en fait, le taux de recyclage, particulièrement sur les bouteilles, les canettes, est très varié en fonction des territoires. Donc, à l'échelle nationale, on va être à peu près 1/2, grosso modo. Si on prend une ville comme Paris ou comme Marseille, on est à 1/10. C'est-à-dire qu'il y a 90% des bouteilles à Paris et à Marseille qui sont incinérées ou enfouies. Donc on se dit qu'il y a quand même pas mal de travail et que notre système peut effectivement amener à aller augmenter ces taux de recyclage.
Ouais, toutes les énergies sont les bienvenues. Hein. Et donc là, du coup, on se retrouve avec plein de machines différentes parce qu'il y a des machines un peu spécialisées en fonction des déchets à trier. Où est-ce qu'on les retrouve là ? Il y a les gens qui nous écoutent, ils nous disent « Bah tiens, j'ai peut-être envie aussi moi d'utiliser un peu ces procédés. » Comment ils font ?
On a une carte sur notre site internet qui permet de trouver où est la machine la plus proche de chez vous. On a tout un parc de machines qui sont accessibles au public. C'est-à-dire dans des lieux, votre magasin, votre gare, on a des aéroports. Et après, on a d'autres machines qui sont dans des espaces privés. Donc là, ça va être sur le lieu de travail. Et on va adapter la récompense en fonction du public qui est visé. Par exemple, dans un stade de rugby, on a fait un petit système, vous avez un tirage au sort. Donc tous les enfants vont à la mi-temps mettre leur bouteille, leur canette, ils obtiennent un petit ticket, et puis le gagnant va repartir avec le ballon du match. Donc voilà, c'est un système qui va vraiment être sur mesure en fonction de la population pour les encourager à trier.
Et de l'autre côté du spectre, pour les personnes qui justement aimeraient installer ces machines dans leurs entreprises, dans leurs magasins, comment ils font ?
Alors là, il y a plusieurs modèles. Sans entrer dans le détail de quel est le modèle économique de l'entreprise, on peut même aller jusqu'à mettre des bornes gratuitement. C'est-à-dire, nous, on va pouvoir se rémunérer dans certains cas sur la matière première. Donc un lieu de passage où il y a énormément de flux, on peut mettre les machines gratuitement. Donc ce qui est le cas des magasins.
D'accord.
Donc si vous voulez une machine proche de chez vous, allez voir le directeur de votre magasin le plus proche pour installer une machine Lemon Tree dans son espace de vente.
Ouais, donc tu dis que même les utilisateurs, les acheteurs, les clients, ils peuvent aussi proposer un peu aux magasins de mettre en place ce système.
Oui, et puis chacun a son mot à dire pour suggérer une idée, mettre une pression positive sur un service qu'il va utiliser tous les jours, sur son magasin, sur son lieu de travail, auprès du directeur de son école. Voilà, à chaque citoyen de faire remonter les idées qu'il estime adaptées.
À tous les ambassadeurs qui nous écoutent, hein, ils peuvent s'y mettre. Tu disais, hein, tu as parlé de canettes déjà. Est-ce que tu peux nous refaire un tout petit peu, peut-être pas la liste complète, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais de déchets qui peuvent être recyclés par vos services ?
On va s'occuper essentiellement des emballages de boissons. D'accord. Donc les bouteilles en plastique, les canettes, les gobelets, où les taux de recyclage sont particulièrement faibles. Pour les gobelets, c'est moins de 1%. Les bouteilles, ça va être 50% à l'échelle nationale, mais 10% dans les grandes villes. Et après, on a aussi d'autres services sur les papiers, les cartons, sur pas mal d'autres choses, mais principalement les emballages de boissons.
Quelques chiffres, peut-être, pour illustrer la présence de Lemonade dans ce secteur ?
Oui.
De Lemon Tree, pardon, parce que j'allais parler ensuite de Lemonade.
Ouais, on en reparlera après. On va en reparler un petit peu après. En quelques chiffres, on a à peu près 300 machines qui sont installées. L'année dernière, on a récupéré plus de 8 millions de bouteilles. Et en ce moment, il y a 50 000 bouteilles qui sont récupérées chaque jour dans les machines Lemon Tree.
Ouais, donc ça, c'est en plein boom.
Oui, et puis on arrive à un moment où les taux stagnaient, donc toutes les solutions innovantes ont un peu le vent dans le dos. On a beaucoup parlé de la consigne, on en reparlera peut-être au cours de l'émission. Mais effectivement, ça a mis un petit peu notre activité sur devant la lumière.
Et donc, du coup, effectivement, j'ai vendu la mèche. Moi, ce que, en construisant cette émission, je me suis rendu compte que les trois invités de l'heure, là, ils ont tous ce penchant solidaire fort, comme si, en fait, un peu la revalorisation de nos objets était à tel point vertueuse que non seulement ça permettait de donner cette utilité nouvelle à nos objets, à nos produits, mais en plus, d'économiser, comme on disait, de l'énergie, de l'eau tout à l'heure avec Jean-François, mais en plus de donner du travail à des personnes, là, en l'occurrence, qui sont en insertion.
Tout à fait, ouais. C'est un projet qu'on a lancé il y a un an et demi. On a créé une autre entreprise, donc une filiale de Lemon Tree, qui s'appelle Lemonade. On aime bien les jeux de mots un peu vaseux.
Vous avez l'air d'être marrant un peu.
du coup, nous, on a apporté l'expertise recyclage et on s'est allié avec la fondation Agir contre l'exclusion, qui ont apporté l'expertise insertion. L'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin dans notre projet social, plus loin que l'agrément ESUS, les entreprises solidaires. Donc on a maintenant une entreprise d'insertion. L'idée est d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi pour différentes raisons, à travers des parcours de formation très courts et assez intensifs. Donc vous venez chez Lemonade durant 6 mois, vous apprenez un métier, celui de chauffeur, cariste, magasinier, et pendant 20% du temps, vous avez des formations donc payées par l'entreprise pour remettre le pied à l'étrier. Donc ça va être des formations professionnalisantes de savoir-être, des formations aussi de comment préparer un entretien d'embauche. Et on est arrivé, donc là c'est tout nouveau, on en est à la 3e promotion, donc 18 personnes qui sont passées par le programme, et on a 80% de sorties dynamiques, c'est le jargon qu'il faut utiliser, donc c'est de personnes qui retrouvent un CDI ou des contrats de longue durée.
C'est pour dire que ça marche. Du coup, attends, là on se refait le pouvoir de la canette qu'on vient de terminer, c'est d'économiser, enfin de revaloriser les ressources de cette canette en matière première qui sera du coup recyclée. C'est aussi de générer des points qui peuvent soit aller vers des associations, soit gagner des goodies, des choses comme ça, tu disais.
Exactement.
Et en plus d'avoir ce volet d'insertion professionnelle.
Oui, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le recyclage crée énormément d'emplois. En face, l'alternative, c'est l'incinération. Donc certes, on arrive à récupérer un petit peu d'énergie, mais ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Il ne faut pas beaucoup de monde pour faire tourner une usine d'incinération. Donc au général, le recycler ces bouteilles, ça va créer des emplois. Par des sociétés comme nous, en plus des emplois d'insertion qui ont plus d'impact, parce que plutôt que de créer 6 postes, on a orienté 18 personnes vers l'emploi, vu que on enchaîne les promotions. Donc oui, quand vous recyclez, quand vous utilisez nos machines, vous avez également un impact direct, mais minime, sur la création d'emplois.
Ouais, en fait, je me rends compte que j'aurais pu complètement renommer cette émission différemment. Ça aurait pu être quand la revalorisation des déchets crée de l'emploi, ou quand la revalorisation des déchets fait aussi de la solidarité. Ouais, c'est vraiment génial. Je te remercie, Emmanuel, pour ton intervention. Nous, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour le débrief. Pour les personnes qui ont envie de retrouver des informations plus précises sur Lemon Tree, je vous invite à aller sur Lemon Tree. Attention, T-R-I à la fin de Lemon, comme citron, L-E-M-O-N. Et c'est .fr, et évidemment sur notre page Facebook, ça commence par nous. Tout de suite, on se refait une petite pause musicale et juste après, on retrouvera Hélène Dédény pour son focus zéro déchet. Allez, à tout de suite.
Love, 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 love. Je suis tout.
Le soir, on rêve et on s'amuse.
Le soir, on rêve et on s'amuse.
La nuit, les vagues vont m'emporter.
La nuit, les vagues vont m'emporter.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous, tout de suite, c'est le moment zéro déchet. Je laisse le micro à Hélène, la fondatrice d'Edeni Zero Waste Positif. Salut Hélène.
Salut Julien. Et oui, alors j'ai des auditeurs qui m'ont appelé poil à gratter dans l'émission et je ne vais pas les faire mentir. Effectivement, le recyclage en termes de zero waste, c'est un peu la pratique qu'on n'aime pas. Alors non pas pour dire que le recyclage est mauvais, absolument pas, mais pour compenser le fait qu'on le met trop souvent à tort en avant. L'économie circulaire a généralisé l'idée fausse qu'un recyclage permettrait de ne pas générer de déchets sur le cycle de vie d'un produit. Or, non seulement ça produit en réalité énormément de déchets, mais surtout énormément de gâchis. C'est une des premières vidéos qu'Edeni a d'ailleurs réalisée pour sa chaîne YouTube, car on oublie souvent que le Zero Waste cherche à moins recycler et non pas à plus recycler. On ne cherche pas à moins recycler en valeur relative, mais en valeur absolue. C'est-à-dire que finalement, on réutilise tout ce qu'on a acheté une fois et on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de produits au recyclage en fin de compte. Car qui dit produit dit extraction de ressources initiales, des ressources de plus en plus rares, dit utilisation d'énergie, de main-d'œuvre, de déchets pour couper, tailler, emballer, transporter, coller, éclairer, achalander, pour que finalement cela se termine chez vous. Alors si on s'en débarrasse, cela veut dire que cela doit arriver dans la bonne poubelle d'abord. Que le camion passe bien, que les agents fassent le tri dans des conditions très pénibles, vraiment, pour l'avoir vu, c'est vraiment un métier qu'on devrait pouvoir éradiquer justement en faisant le tri à la source et en ayant moins à recycler. Et quand le tri est possible et qu'on va réutiliser de la matière première de toute façon, de l'énergie et des ressources pour refabriquer un produit recyclé qui ne le sera lui-même, sans doute pas une deuxième fois. Est-ce que vous saviez, par exemple, que des fibres papier ne se recyclent pas plus de 10 fois et toujours avec réintroduction de matières fraîches, tandis que rares sont les plastiques qui sont vraiment recyclables plus de, allez, 7 fois au grand maximum, mais sinon la plupart du fois c'est une fois. Et il faudrait surtout, pour pouvoir recycler l'ensemble des emballages, des usines capables de les trier. Or en France, il n'en existe que 39, qui ne couvrent que 25% de la population et coûtent plus de 10 millions d'euros chacune payés avec nos impôts. Donc finalement on paie deux fois, en achetant des produits qu'on va acheter et en les recyclant. Mieux vaut apprendre donc à être zero waste, n'est-ce pas ?
Ce que tu dis en fait, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.
Exactement. Et alors bien sûr, en attendant le retour espéré de la consigne, il est toujours mieux de recycler du verre que de le jeter, et idem pour le papier, évidemment. Et encore, c'est encore mieux d'augmenter la durée de vie d'un produit en le réparant, en le vendant, en le réutilisant et en le partageant. Attention enfin à l'upcycling, qui est en règle générale une super idée qui consiste à attribuer une nouvelle fonction à un objet ou un ensemble d'objets. Par exemple, transformer une vieille palette de bois en une table basse pour son salon, ça évite le gâchis. Et ça évite de faire un appel d'air pour un produit neuf. Mais il faut à ce moment-là vraiment utiliser au maximum le produit, ici en l'occurrence la table basse, et non pas faire un upcycling juste pour un événement d'un week-end par exemple. Pourquoi ?
parce que sinon, on risque de transformer des produits recyclables lorsqu'ils sont pris indépendamment, comme par exemple la palette de bois et une plaque de verre, en un nouveau produit non recyclable à cause de la colle ou des clous indémontables entre les deux. Et c'est le cas de nombreux exemples où l'association de deux matières premières recyclables rend l'assemblage non recyclage.
Génial, on se retrouve avec un beau salon tout vert, avec plein de bois, des palettes, des trucs comme ça, et puis à la fin, du coup, tout termine aux ordures ménagères incinérées ou enterrées, c'est ce que tu dis.
Exactement, donc encore une fois, le paradigme est clé, le calcul des coûts complets, éviter les fausses bonnes idées, les idées reçues. Alors, tout simplement, pour éviter les nœuds au cerveau, pensez déni, pensez zéro gâchis et surtout pensez zéro waste. Et pour vos livres, pensez à Recyclivre. Et c'est pour cela qu'on reçoit Sarah, Régis Lidy de Recyclivre. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Chez Recyclivre, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais prononcer Recyclivre, parce qu'à chaque fois je le prononce mal et je sais que Sarah m'engueule après. Recyclivre, vous êtes plus qu'un site internet de vente et livres d'occasion, c'est ça?
Oui, en effet, on est une entreprise sociale et solidaire qui collecte gratuitement vos livres. Donc c'est un service gratuit à destination des entreprises, des associations, des particuliers, mais aussi des collectivités. L'idée, c'est de collecter vos livres et ensuite de les remettre en vente sur Internet pour financer des associations.
D'accord. Et quels sont les projets que vous soutenez en fait en reversant une partie de vos revenus? J'ai lu ça sur le site.
Alors, il y a plusieurs branches chez Recyclivre. Dans un premier temps, les livres qu'on va collecter vont être gérés par Ares Service, donc une entreprise d'insertion qui va s'occuper de la gestion de notre stock et de la gestion de nos commandes. À travers cette activité-là, on va générer des emplois en insertion. Aujourd'hui, c'est près de 25 équivalents temps plein qui sont créés grâce à l'activité de Recyclivre. Donc ça, c'est un premier pôle. Et ensuite, on va financer, grâce à la vente des livres sur recyclivre.com, notre boutique en ligne, on va financer des associations en faveur de la culture et de l'environnement.
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu as des noms d'associations très précis?
Oui, alors on a des gros partenaires comme le Secours Populaire. Traditionnellement, ça va être aussi... on va avoir aussi...
Une association de lecture, non, il me semble.
Alors, le partenaire principal de Recyclivre va être Lire et Faire Lire, à qui on a reversé plus de 74 000 euros en 2017, par exemple.
Waouh.
Ouais, c'est énorme. Mmh. Et donc, du coup, tu l'as déjà dit, il y avait tout ce volet en plus, insertion professionnelle. Exactement. Qui est inhérent à Recyclivre. On revient un peu au début. Ce que tu as dit très vite, et là, j'aimerais qu'on reprenne un peu ça en ordre de marche, c'est que ces livres, ils sont collectés.
Ouais.
Et comment on fait pour les collecter? Moi, chez moi, à un moment, j'ai fait le vide chez mes grands-parents. Il y avait des livres de partout. J'avais le choix entre les amener à la déchetterie ou les donner, mais c'était compliqué. Comment on peut faire avec Recyclivre?
Alors, c'est assez simple. Il suffit de nous contacter par téléphone au 01 83 62 12 21 pour Paris notamment, ou alors de vous rendre sur notre site internet recyclivre.com, de remplir un petit formulaire et nous, on vous recontacte et on s'engage à passer sous 10 jours pour collecter vos livres. Si vous êtes à Paris, on se déplace à partir de 100 livres, donc l'équivalent de 2 cartons et demi, donc c'est un seuil qu'on atteint très facilement, mais dans d'autres secteurs, par exemple, parce qu'on est basé aussi à Lille, par exemple, on va passer pour des seuils de 50 livres, par exemple. Donc il suffit de nous contacter avec la quantité approximative. À partir de là, nous, on passe chez vous, on peut, dans certains cas, les mettre en carton et apporter les cartons, et après, ces livres vont être traités dans nos ateliers.
Il y a des points de collecte aussi?
Alors, pour les personnes qui n'atteignent pas le seuil minimum ou les personnes qui sont dans des zones un peu plus éloignées, en effet, on propose un service de dépôt auprès de partenaires, donc toujours un service gratuit, donc ça va être des points livres, ou alors l'envoi gratuit via des relais à proximité de chez vous, donc des commerces à proximité.
Et moi, ça fait longtemps que j'utilise la plateforme Recyclivre. J'ai vu qu'il y avait eu un bon coup de pinceau qui avait été passé sur le site web. Est-ce que vous êtes un peu en plein développement là?
Et oui, alors l'idée c'est de collecter des livres, mais après de les revendre, notamment sur recyclivre.com. Et on commence à avoir pas mal de clients sur notre boutique en ligne. Et on a fait un appel en décembre pour avoir des avis, des retours de nos clients. Et on les a écoutés et on a sorti en février une nouvelle version de notre boutique en ligne où vous pouvez acheter tous les livres qu'on a insérés dans notre stock.
J'ai Génial, merci Sarah. Je le redis quand même, hein, parce que là, c'est passionnant cette émission. Le pouvoir du livre qui dort dans sa bibliothèque et qui prend la poussière, si vous alliez le jeter ou si en fait vous vous rendez compte que ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas ouvert, servez-vous-en, parce que du coup, ça permet de générer de l'argent quand c'est revendu par Recycle Livre sur votre site d'occasion pour non seulement soutenir des associations, tu l'as dit hein, tout à l'heure, des associations de lecture, des associations comme Secours Catholique, mais aussi de créer des emplois qui sont dans l'insertion. Donc c'est vraiment du gagnant. Je compte même plus les gagnants, ça en fait. Voilà, le site internet hein, quand même, c'est recyclivre.com. Je vous l'appelle, c'est recyclivre.com. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est normal. Je vous redonnerai toutes les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Nous, on se refait un nouveau break musical et on revient juste après avec Anne-Sophie qui nous partagera le bon plan de One Art. Allez, à tout de suite.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et vous êtes toujours dans l'émission Ça commence par nous. Moi, je laisse le micro à Anne-Sophie du média positif One Art. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Julien.
Alors aujourd'hui, Anne-Sophie, tu vas nous expliquer que financer un rêve d'enfant malade avec son ancien portable, c'est possible.
Oui, avec l'association Pour la vie, qui collecte des téléphones mobiles, smartphones et tablettes inutilisées pour financer et réaliser, grâce aux revenus du recyclage, les rêves d'enfants atteints de myopathie de Duchenne.
La myopathie de Duchenne, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît?
Alors, c'est une maladie génétique rare qui entraîne la disparition progressive de tous les muscles. Seuls les garçons développent la maladie. Les enfants perdent généralement la marche entre 10 et 12 ans. Et les complications pulmonaires et cardiaques remettent en cause le pronostic vital à l'âge adulte. C'est le père d'un enfant touché par cette maladie qui a eu l'idée d'utiliser l'argent lié au recyclage au profit de ces jeunes.
Et nous, justement, de ce recyclage de téléphone, on en a déjà parlé brièvement dans une autre émission. Est-ce que tu peux nous redonner quelques données sur ces téléphones inutilisés en France, s'il te plaît?
Il y a plus de 50 millions de téléphones mobiles inutilisés qui sont stockés chez les ménages et les entreprises. Les Français changent en moyenne leur téléphone tous les 12 mois. Tous ces téléphones contiennent des métaux lourds dont le stockage en décharge entraîne des contaminations toxiques irrémédiables pour l'environnement. L'association travaille avec le centre de recyclage BAC2, situé à Croix, dans le Nord, qui garantit un traitement environnemental conforme à la réglementation actuelle, c'est-à-dire sans enfouissement. Les métaux précieux sont collectés, le reste est broyé et réutilisé. Les portables qui sont réparables, quant à eux, sont remis à neuf, reconditionnés et revendus.
Et du coup, les gens qui nous écoutent, ils se disent bah, « Tiens, comment moi je peux participer? Comment on peut donner? Comment on peut organiser une collecte ?»
Alors, vous, si vous êtes particulier, vous pouvez déposer vos anciens téléphones mobiles, même cassés, dans l'un des 300 points de collecte à travers toute la France, que vous pouvez consulter sur notre plateforme OneArtSpot, ou les envoyer gratuitement en imprimant une étiquette T à partir du site internet de l'association. Si vous êtes une entreprise, une administration ou un commerce, l'association qui vous fournit gratuitement des urnes et des affichettes pour organiser la collecte et organise l'envoi sans frais des téléphones collectés, et aussi l'association peut récupérer l'ancienne flotte des mobiles des salariés.
Génial, c'est hyper facile, et toi, tu as quelques exemples de rêves réalisés?
Oui, alors Pour la Vie parvient à réaliser une dizaine de rêves par an. Ce chiffre n'est pas énorme, mais il faut savoir que l'enfant est accompagné de sa famille, sans limite de budget. L'objectif de ce rêve est de souder la famille, souvent malmenée quand elle connaît la maladie. C'est aussi de donner la force mentale à l'enfant avant un nouveau traitement. Alors par exemple, Paul, 9 ans, a pu terminer l'épreuve mythique du marathon de Marrakech et a eu le luxe de courir une journée de plus dans les dunes du Sahara avec l'équipe de pompiers Raid Aventure. En ce moment même, Marius, 14 ans, en fauteuil, est en train de visiter New York avec sa famille. Et les téléphones collectés depuis janvier vont permettre à Léo d'assister au mondial de foot à Moscou, où il sera invité avec son papa pendant une semaine. Alors, cela ne doit pas nous entraîner à changer nos appareils plus rapidement, mais sachez donc que donner son ancien téléphone à l'Association pour la Vie est bien un geste gratuit, écologique et solidaire.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et vous êtes bien dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, on creuse les options pour éviter de faire grossir notre poubelle et on rentre dans le dernier quart d'heure de l'émission. Et oui, ça y est, c'est le moment tant attendu, le moment du débrief. Pour commencer, moi, je vous partage une expérience personnelle. Souvent, quand je fais des cadeaux, j'offre des objets d'occasion et je vois bien que la réaction de la personne qui le reçoit est en au mieux demi-teinte. Pareil, quand je dis que j'ai fait ma compote de pommes que j'ai récupérée parce que je connais le marchand du coin et qui me donne des pommes qui allaient être jetées, les gens se disent « Ah, c'est bon !» Mais ils savent bien que c'était les pommes pourries qui étaient planquées dans les cagettes au fond. Finalement, on va pas se mentir, c'est pas très sexy de recevoir quelque chose qui a déjà servi, qui était sur le point d'aller à la poubelle. Est-ce que vous vivez ça aussi un peu dans vos métiers, ou est-ce que finalement revaloriser un peu aussi ces déchets, c'est pas un peu en train de devenir sexy, Jeff?
Moi, Julien, je dirais que la beauté est intérieure. Donc, c'est simplement une manière de voir les choses. Et c'est tout ce sur quoi on essaye, nous, d'activer, c'est de prouver que ce qui semble à un instant T ne plus avoir de valeur, en réalité, si on change nos lunettes ou notre regard sur le sujet, sur la question, sur l'objet, sur la denrée, la nourriture, on peut totalement la révolutionner. Et je ferai un clin d'œil, en fait, à un grand chef qui nous a quittés récemment, grand chef français, mais reconnu mondialement, qui voilà, était aussi un génie en fait en cuisine et pouvait transformer les choses. Donc la cuisine, c'est ça aussi quelque part, c'est d'arriver à faire des recettes avec rien.
Et en plus, vous avez un petit côté sexy, comme je disais tout à l'heure. Tu nous parlais des vélos, comment c'est la contraction du mot, pardon?
Les vélos mixeurs.
Les vélos mixeurs, ça c'est tout le monde s'amuse, ça interpelle, et du coup on rend ça en fait, on transforme ça en un jeu.
Oui, tout à fait. Je pense que comme dans la nature, si on regarde autour de soi la biodiversité, la nature, dans le début de l'âge, en fait, on apprend à devenir adulte en jouant. Et donc, on s'est véritablement posé la question de savoir comment on pouvait transmettre la question du gaspillage sans que ce soit trop anxiogène ni stressant, mais plutôt en force, dans capacitation. Alors, parfois, on me critique, on me dit oui, en capacitation, c'est un mot qu'on n'utilise pas. OK, bon, empowerment, si vous voulez, ou en puissancement, j'aime bien les Québécois. Et donc, pour dire, monter sur le vélo, c'est un vélo de récup, issu de la fourrière, remis en état mécaniquement, on refait la peinture, tout ça en Île-de-France, avec un blender seconde main. À la place du système dynamo pour faire de la lumière, vous faites des smoothies et sur la base en effet de fruits moches qui n'ont que moche ce qu'on veut voir, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, la beauté est intérieure et on peut en faire des délicieux smoothies savoureux en mode ludique.
Ouais, ça va complètement. Vous vous souvenez, les filles, on avait reçu les confitures rebelles hein, qui étaient à fond dans cette thématique, hein, Hélène ?
Oui. Alors les confitures rebelles et aussi les bananes, je me rappelle qu'on avait parlé de ça, que les bananes ne se mangent que marron en réalité, et donc il y a beaucoup de choses comme ça où on a l'impression qu'on va perdre au change à avoir quelque chose d'un petit peu passé, en tout cas vu tel quel, alors que pas du tout, c'est au contraire quelque chose qui a pris de la valeur, un peu comme la belle pierre, comme la vieille pierre, et moi très souvent c'est ce que je me dis quand J'ai grandi, hein, comme tout le monde, attirée par les lumières de la surconsommation et du neuf tout le temps, et de ce qui brille, et de ce qui est beau, et ce qui est design. Et en fait, quand j'achète un produit de seconde main, ce qui est ce que j'achète la plupart du temps, comme toi, Julien, pour faire des cadeaux aussi, et ben, ce que je me dis, et vraiment, c'est quelque chose que je vous invite, vous, à intégrer, c'est qu'en fait, ce produit de seconde main n'a plus les composés organiques volatiles, les COV, polluants, n'a plus les phtalates, n'a plus tous ces perturbateurs endocriniens qui pouvaient être sur leur surface quand ils étaient neufs, et que ça y est, ils ont fait déjà une première vie, et que donc ils se sont débarrassés du mauvais quelque part, et qu'il reste uniquement le bon. Alors évidemment, ça ne s'applique pas pour tout, genre les vieux tupperwares, non. Typiquement, c'est le contre-exemple, mais comme dans la langue française qui est si belle, il y a beaucoup de règles, mais il y a aussi beaucoup de contre-exemples aussi.
Voilà, c'est vraiment, on est dans ce combat là hein, pour rendre cette revalorisation sexy. Vous avez l'impression, vous, maintenant, de participer aussi dans cette lutte. C'est pas finalement qu'une question logistique. Hein, j'ai l'impression, il y a aussi un combat pour travailler les mentalités. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel ?
Oui, tout à fait. Nous, à notre échelle, sur le plastique, et même la bouteille en plastique, qui est un peu le déchet par excellence qu'on voit dans toutes les campagnes, on travaille pas mal avec les industriels pour les encourager à mettre de plus en plus de plastique recyclé dans leurs bouteilles. Et on voit qu'il y a un petit changement de mentalité parce qu'ils prennent conscience que le consommateur, il cherche, il fait attention durant ses achats à acheter le produit qui a le moins d'impact possible. Et donc, ils intègrent de plus en plus de plastique recyclé dans leur bouteille afin de réduire l'impact de leur activité. Et on voit qu'il y a un changement un petit peu de mentalité qui n'est pas venu forcément directement des industriels, évidemment. Mais poussé par les consommateurs, où chacun peut, avec son acte d'achat, quand même faire changer les choses à son échelle.
Vous avez une idée du type d'achat qui est fait sur Recyclivre ? Est-ce que c'est pour du cadeau ? Est-ce que c'est pour la consommation personnelle ? C'est une question un peu piégeuse, mais...
Non, pas forcément. Après, nous, on a la chance de travailler un produit qui est assez noble. Le livre est considéré comme étant très noble. Mais il y a aussi cette volonté de financer ces associations. On sait que très, très souvent, on nous dit bah voilà, j'achète chez Recyclivre pour mon plaisir personnel, mais je n'hésite pas aussi à offrir un livre d'occasion qui n'est plus perçu comme un produit de seconde main, mais bien comme un acte éco-citoyen, parce qu'on va avoir un impact favorable sur l'environnement. On va aussi financer des associations. Donc, par exemple, en 2017, c'est plus de 350 000 euros qui ont été reversés à nos partenaires associatifs. Et donc, forcément, il y a un éveil. Il y a une conscience aussi bien écologique que humaine qui se fait à travers cet achat. Donc ça va être vraiment une volonté, que ce soit pour personnel ou pour faire circuler la bonne parole et le geste éco-citoyen.
Moi, j'ai vraiment l'impression de m'être mis un peu des nouvelles lunettes depuis que j'aborde ces thématiques et que finalement, j'arrive à regarder un peu nos ressources, comme tu disais, le neuf qui brille, mais aussi l'ancien avec une nouvelle manière de voir les choses et que finalement, effectivement, tout ça, ça a modifié complètement ma manière de consommer. Est-ce que vous, dans votre vie personnelle, vu que vous êtes aussi en train d'aborder ces questions dans votre quotidien professionnel, est-ce que ça vous a aussi transformé dans votre quotidien personnel? professionnel et que finalement vous êtes devenu un peu plus, je sais pas, spartiate ou épicurien au moment d'acheter des nouveaux produits?
Ben, c'est vrai que moi, à titre perso, tout mon défi a été de convertir une activité professionnelle qui me permette d'en vivre en une passion, ou une passion en une activité professionnelle. Donc c'était des valeurs que j'avais ancrées en moi, et je pense qu'on est tous issus d'une génération, je suis encore plus au plébiscite des générations nouvelles en fait, qui arrivent après nous, et qui ont véritablement envie de prendre le pouvoir sur ces thématiques-là. J'ai envie de revenir un petit peu sur l'exemple que donnait Emmanuel sur la partie les industriels changent un petit peu. Alors un petit peu, c'est peut-être pas assez vite en soi, surtout qu'elles ont un pouvoir. Je suis complètement convaincu en fait de la force des entreprises lorsqu'elle décide en fait d'être en rupture. Je pense à notamment Yvon Chouinard, qui est fondateur de Patagonia, qui sur l'industrie textile en fait est un lanceur d'alerte, et en même temps de dire je peux continuer de répondre à vos besoins mais avec une nouvelle manière de faire. Et donc sur cet aspect-là, c'est vrai qu'on a un devoir et un enjeu de considérer la rareté comme une véritable opportunité pour changer en fait nos modèles de production, de consommation, de distribution, et surtout de ne pas générer en fait le déchet. Le plus beau déchet, c'est celui qui n'existe pas, c'est vrai. Je pense qu'il y a un autre prisme que l'on peut cultiver, c'est d'imaginer donner de la valeur en fait au déchet, pour qu'il soit en effet, sur des logiques circulaires, la ressource d'une nouvelle activité. Et c'est quelque part, c'est vrai, ce qu'on essaie de promouvoir avec Sarah, avec Emmanuel et puis avec vous. Et moi, en tout cas, je suis très, très heureux de pouvoir avoir la parole. Elle n'est pas régulière, mais voilà, quand on me la donne, je la prends. Et je remercie en tout cas Julien pour cette invitation.
Sarah, toi, tu as profondément modifié tes habitudes du quotidien, ou c'est pareil, tu étais comme Jean-François, ça faisait longtemps que tu baignais dedans?
J'étais déjà sensible à toute cette dynamique, l'impact qu'on pouvait avoir à travers notre consommation sur la planète. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette difficulté de trouver des solutions. Et c'est vrai que grâce à Recyclivre, en rencontrant des acteurs de ce domaine, donc du recyclage et autres, en rencontrant des partenaires, en créant de nouvelles synergies, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au final, consommer intelligemment n'était pas quelque chose de si difficile que ça. Et il existait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on vit à une époque où Internet permet de développer beaucoup de projets intelligents et favorables pour l'environnement. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé.
Et partageons nos bons plans, parce que du coup, là, on parle de redonner une vie avant que ces objets soient jetés. Quand on n'a plus le choix, pourquoi il y a aussi peu d'objets qui sont recyclés? Est-ce que vous, c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que vous avez découvert des astuces, des bons plans qui aident à être des experts du recyclage? Parce que c'est pas évident, ça change en fonction des communautés d'agglomération. On n'a pas tout le temps une bonne poubelle à côté de nous. On n'est pas sûr. Comment tu fais, toi, Anne-Sophie?
Moi, je me bats au sein de ma famille pour que on trie correctement, parce que c'est un combat vraiment quotidien avec 4 enfants qui comprennent pas où mettre les trucs. Mais j'ai découvert un endroit dans Paris assez récemment, donc pour les Parisiens qui nous écoutent, c'est la déchetterie dans des Invalides, qui se trouve sous les Invalides. C'est un endroit où on peut déposer tous ces objets dont on n'a plus besoin. Et on a du mal à s'imaginer qu'il y a un centre aussi important en plein cœur de Paris, donc qui est très accessible. Donc voilà, pour recycler une fois que...
Ouais. D'autres bons plans, d'autres astuces que vous voulez partager?
Bah, au-delà de ça, il y a quand même pas mal de structures comme les ressourceries qu'on peut trouver un peu partout, que ce soit en région parisienne ou en province. Donc c'est assez simple aujourd'hui. Puis après, avec Internet, c'est quand même aujourd'hui, à partir de quelques mots-clés, trouver des solutions reste relativement simple. Donc je pense que...
Donc toi, ça te choque pas, on va y arriver. Une dernière intervention, Jean-François.
Quitte à passer un petit peu avec du lyrisme, parce qu'on on fait souvent un clin d'œil là-dessus, mais je pense qu'il y a des logiques en fait d'éco-conception à imaginer, et qui dit éco-conception dit aussi éco-consommation. Et quelque part, aujourd'hui, acheter, c'est comme un bulletin de vote, c'est vraiment un pouvoir d'agir. La prévention de production du plastique, elle est de ne pas orienter en fait les producteurs de plastique, ou en tout cas les emballages en plastique. Donc c'est d'imaginer aussi, utiliser, c'est vrai que Julien, tu es assez bien situé pour le promouvoir, le vrac, enfin il y a plein de possibilités. À partir du moment où on est au niveau du plastique, moi il y a un projet que j'ai remarqué marqué qui est Precious Plastic, qui est en fait identifié en Hollande et qui permet en fait de revaloriser le plastique en le transformant en abat-jour, en plein de produits en fait de consommation, voilà, et qui sont des modèles en fait assez intéressants.
Ouais, effectivement, on aura l'occasion un jour d'inviter tous ces Fab Labs, un peu tous ces personnes qui transforment la matière et qui créent des objets. Une dernière intervention de Jeff qui me dit vas-y, j'ai un truc à dire.
Ouais, en fait, 10 secondes. On est à Montreuil, en fait, et je voulais faire un clin d'œil à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Samuel, et qui défend, c'est vrai, une cause que je trouve noble, qui est celle des bifins. Et en fait, Montreuil a été un territoire assez dynamique et pionnier en la matière, qui permet, si je ne dis pas de bêtises, une fois par moi, il me semble, d'orienter le marché pour les bifins. Et donc, les bifins sont des collecteurs, sont les premiers collecteurs, en fait, historiques, anciens, à venir alléger, en fait, la poubelle sur des logiques, c'est vrai, d'incinération et d'enfouissement.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, effectivement, puisque l'émission se termine malheureusement. Je remercie tous nos invités pour leurs interventions de qualité. On a eu Jean-François Réco de Biocycle, on a eu Emmanuel Bardin de Lemon Tree et Sarah Lidi de Recyclivre. Je remercie également notre équipe de choc avec Anne-Sophie de OneArt pour son bon plan, Hélène Dédény pour son focus zéro déchet, Raphaël à la technique et Fabrice, notre producteur pour Rage.
Nous !
Et voilà, après cette heure d'émission hyper inspirante, moi je me dis que c'est finalement assez facile de réduire considérablement quand même la taille de nos poubelles. La question c'est quand est-ce qu'en France on arrivera à faire aussi bien que dans des villes comme San Francisco. En tout cas moi, je pense que ça dépend vraiment de nous. Alors allons-y au boulot. Deux petites astuces pour terminer. Il y a une application qui s'appelle le guide du tri qui aide à trouver exactement quel déchet va où. Et Écosystème en ce moment qui est en train de faire tourner une exposition assez pédagogique, très bien faite dans toute la France pour y voir plus clair sur comment utiliser et faire en sorte que nos déchets soient revalorisés jusqu'au bout. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pourrez retrouver le podcast sur le groupe Facebook de Ça commence par nous, mais aussi sur rage.fr et sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera de démocratie au quotidien. Merci de nous avoir écoutés. Je suis vraiment content d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à samedi prochain, 13h. Allez, salut.